Là, ce soir, alors c'est un peu. Alors, le premier morceau, en fait, c'est un peu parce que je n'ai pas pu résister quand j'ai vu la partition. C'est celle qui fait l'affiche, là, ça s'appelle Les Veillées des Salons. En fait, c'est le premier compositeur, Peter Cavallo, dont je vais vous jouer une étude. Hein. Donc, vous voyez, en fait, c'est une série d'études pour piano. Pour voir un petit peu parce qu'on voit bien à travers les études l'évolution de l'écriture pianistique à travers le temps. On voit bien l'évolution du piano aussi, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas les mêmes choses au début du 19e, même si Chopin, je l'ai mis à la fin parce que Chopin, ça a été tellement grandiose ces études que je ne pouvais pas le mettre là au début, il fallait que ce soit à la fin. Bon, mais c'est vraiment un cas particulier. Mais il y a vraiment une très grande évolution et ça s'entend vraiment dans les études, l'évolution des pensées, l'évolution des compositions. Le premier, donc, c'est vraiment un cas très particulier parce que Peter Cavallo, c'est un grand inconnu. Hein, j'ai eu du mal à trouver 2-3 choses sur lui. Il était très... Oui, c'est ça. Hein, mais... je vais aller là pour que je parle. Voilà, comme ça, je vois tout le monde. Et Peter Cavallo, donc, il a été très connu comme pianiste dans les années 50, alors les années 1850. Hein. C'était une période où il y avait justement beaucoup de musique de salon, où la musique, comme il n'y avait pas de disque, en fait, ça se passait par partition. Il y avait beaucoup d'amateurs éclairés qui jouaient de la musique chez eux, qui faisaient des petites soirées chez eux, qui jouaient entre eux, soit des quatre mains, beaucoup de transpositions, de symphonies, de choses comme ça, pour quatre mains, donc ils se mettaient à deux et ils arrivaient à se débrouiller suffisamment pour quand même arriver à faire plaisir aux gens qui écoutaient. Et Cavallo, donc, était très connu dans ce milieu-là. C'était un organiste. Alors, en fait, il y avait beaucoup, j'ai réalisé après coup, qu'il y avait beaucoup d'organistes dans les grands compositeurs, César Franck, Saint-Saëns, c'était un grand organiste, bon, Messiaen après, fallait... Alors, en fait, je pense aussi, c'est parce que, bon, déjà, la religion avait une place beaucoup plus importante qu'elle l'a maintenant, que c'était un métier où on pouvait gagner sa vie, aussi d'être organiste dans les églises. Il y avait beaucoup d'églises, donc il y avait besoin de pas mal d'organismes. Donc, je pense que c'était un débouché aussi beaucoup plus facile que maintenant. C'est vrai que l'orgue, maintenant, quand même, on n'en entend plus beaucoup parler. Enfin, il n'y a plus beaucoup dans les conservatoires, c'est plus tellement en vogue. Mais la plupart des grands compositeurs ont été organistes, ont tenu les orgues de pas mal d'églises assez renommées, étaient assez renommées pour leur talent d'improvisation aussi. Improvisation au sens classique, mais parce que le jazz n'existait pas à cette époque-là, mais c'était quand même des improvisations qui débouchaient souvent d'ailleurs sur des écritures de morceaux. Et par exemple, Camille Saint-Saëns était un grand improvisateur, Berlioz, Liszt, c'était admirateur, allait l'écouter dans son église quand il improvisait, tellement c'était magique. Hein, donc l'orgue avait vraiment une grande importance. Celui-là donc était aussi organiste et a sorti une feuille de chou qui s'appelait Les Veillées dans les Salons, et où il éditait des morceaux de musique, alors je ne sais pas trop à quel rythme, pour que les gens, les amateurs, puissent jouer dans les salons. Donc le premier morceau que je vais vous jouer, c'est une étude de salon. Alors j'ai aussi découvert ce terme, je ne connaissais pas. Je connaissais les études de concert, les études de virtuosité, enfin il y a toutes sortes de noms d'études. Mais étude de salon, voilà. Alors le nom est très évocateur, le vertige, hein. Alors, là, on voit un peu où il veut en venir quand même. Et voilà, donc on va commencer. C'est pas ridicule, bien qu'il soit, que ce soit pas quelqu'un qui soit dans les lieux. C'est pas. Voilà, donc vous allez, le mieux c'est que vous jugiez sur pièce en fait. Donc le vertige. Thank you. représentatif de ce qu'il jouait couramment dans les salons. Enfin, tout le monde n'est pas Chopin, tout le monde n'est pas Liszt non plus. Mais ça, c'est quand même, ça a l'avantage de mettre une musique à la portée de tout le monde, de pouvoir la faire jouer. Et voilà, il y avait des multitudes de morceaux comme ça qui circulaient, que les gens se passaient. Alors, on va passer à un compositeur plus connu, on dira le Camille Saint-Saëns. Donc Camille Saint-Saëns, je vous en ai déjà parlé. Je pense que je vais un peu moins parler ce soir parce que j'en ai déjà tellement dit sur chacun. Que je vais pas, mais bon, Camille Saint-Saëns, donc aussi très très grand organiste, hein, qui a été très reconnu comme ça, qui a été aussi quelqu'un qui a eu, je dirais entre guillemets, le tort de vivre trop longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, il était très très original dans ses débuts. C'est vraiment quelqu'un qui a créé, qui est sorti de la musique romantique. Parce que tout le début du siècle, c'était vraiment le classicisme. Lui a commencé à ouvrir sur d'autres idées, à faire renaître la musique française, les compositeurs français. Il a créé une société nationale de musique, qui était pour promouvoir la musique française à l'époque où tout le monde ne jurait que par Wagner. Et bon, il y a eu tous les compositeurs allemands, italiens avant lui, hein, alors beaucoup aussi dans l'opéra et tout ça, mais la musique française a commencé à vivre grâce à ça. Le problème de Saint-Saëns, en fait, c'est qu'il a vécu surtout le début du XXe siècle. Il a eu beaucoup d'élèves assez connus qui ont été très loin, mais lui n'a pas suivi ce mouvement dans son écriture musicale. C'est-à-dire qu'il est resté dans le type d'écriture qu'il écrivait à ses débuts. Ce qui fait que des choses qui étaient très originales en 1870, 1880, 90, à partir de 90, quand Debussy a commencé vraiment à écrire des choses complètement différentes, ça a commencé à devenir très très classique et de plus en plus classique. Et dans les années 15-20, ben, c'était vraiment complètement en dehors du contexte. Hein. Après, d'autres gens ont fait ça. Rachmaninoff, par exemple, a eu une écriture aussi considérée très classique. Donc il y a aussi des gens qui n'aiment pas du tout Rachmaninoff parce qu'ils trouvent qu'il n'avait rien à... Enfin, que ce qu'il a écrit au XXe siècle, ça aurait été très bien si ça avait été écrit un siècle avant. Et puis d'autres qui trouvent ça génial et très beau et qui s'en fichent que ça ait été écrit au XXe siècle. Hein, donc, Saint-Saëns. Alors, Saint-Saëns, j'ai choisi des études pour la main gauche parce que c'est aussi un des grands classiques du piano. Bon, il y a le fameux concerto de Ravel hein, qui est très très connu pour la main gauche. Mais beaucoup de compositeurs ont écrit pour la main gauche pour plusieurs raisons. Déjà pour des gens qui avaient des problèmes de main droite, des pianistes. Bon, Ravel, lui, c'est un pianiste donc avait perdu son bras pendant la guerre. Donc, il lui a écrit un concerto pour la main gauche. Mais il y en a plusieurs qui l'ont écrit, hein, d'ailleurs, à ce pianiste-là. On a écrit aussi beaucoup pour la main gauche parce qu'en fait, au piano, c'est quand même beaucoup la main droite qui est utilisée. C'est elle qui a les mélodies, c'est elle qui a le chant. C'est elle qui est très, très utilisée. Donc, c'est elle qui est la plus virtuose, et donc la main gauche, ben, il y a aussi besoin de la faire travailler d'une manière différente et de la faire chanter. C'est pas que du travail technique, c'est pas que savoir la bouger à toute vitesse. C'est aussi, ça fait aussi partie, mais vous verrez, les études, ce n'est pas que des choses qui vont à toute vitesse. C'est aussi tout un travail mélodique et d'autres, mais ça on en parlera en cours de route. Donc, je vais vous jouer deux études de Saint-Saëns, qui se complètent plus ou moins, parce que la première, c'est un prélude, et la deuxième, il a appelé ça en forme de fugue, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie fugue, une fugue, c'est une formation, une construction très très précise. Lui, c'est plutôt une fugueta, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui se balade un peu dans tous les sens, qui tord un petit peu, qui met à l'endroit, à l'envers, mais qu'on retrouve un peu dans tous les sens.
Thank you.
sur quelques minutes comme ça. Ça commence par Moskowski. Donc Moskowski, pareil, qui est plutôt connu par les pianistes. C'était un grand pédagogue. Il a donné beaucoup de cours de piano. Il a écrit surtout des études. Apparemment, c'était un assez bon vivant. Il a écrit des choses comme heureusement qu'il y a des profs de piano, parce que sinon les élèves avanceraient beaucoup trop vite. Après, c'est aussi quelqu'un qui n'est connu qu'à travers ses études de piano. Après, moi, je ne connais pas tellement. Il a écrit beaucoup de choses. Il y a un compositeur et musicologue actuel qui s'appelle Guy Sacre, qui a écrit deux livres sur les musiques de piano, où il répertorie en fait un peu tous les morceaux de piano qui existent. Donc il y a une écriture très très subjective, c'est-à-dire que déjà il y a quelques compositeurs qui ne font pas partie parce qu'ils ne les aiment pas. Et voilà. Mais bon, il le dit clairement, hein, au moins les choses sont faites. Et lui, il dit de Moskowski qu'en effet, ses musiques sont un petit peu mièvres, mais qu'heureusement, dans le cadre des études, il s'était tellement cadré qu'il a pu ressortir un peu quelque chose. Mais il n'aime pas du tout le reste. Alors après, moi, je n'ai pas d'avis sur la question parce que je ne connais pas les autres choses qu'il a écrites. Mais ses études sont intéressantes parce que le principe de l'étude, c'est quand même de travailler de la technique. Mais de travailler de la technique en faisant de la musique et pas juste en faisant remuer les doigts. Et voilà, c'est ça qu'a trouvé Moskowski. Celle d'après, donc, que je vais vous jouer, c'est Benjamin Godard, pareil, qui n'est pas quelqu'un de très très connu, qui fait partie du. Qui a été aussi quelqu'un de très célèbre en tant que pianiste. Pianiste et aussi chef d'orchestre. C'est aussi quelqu'un qui avait repris les concerts Padoue. Padoue, c'était un chef d'orchestre. À cette époque-là, il y a eu plusieurs orchestres qui sont fondés au milieu du 19e siècle. Donc, il y a eu les Padoue, il y a les concerts Colonne, le concert L'Amoureux, qui sont des orchestres qui existent encore maintenant. Hein, et donc, Benjamin Godard a été pas mal connu à travers ça, parce qu'à travers cet orchestre, il a fait jouer pas mal de ses contemporains aussi. Et il a écrit pas mal de choses, dont deux séries de ce qu'il a appelé études artistiques. Et là, je vais vous jouer donc un ensemble de quatre études. La première étude de Moskowski, donc quelque chose de plutôt virtuose, vous verrez, c'est des grandes vagues d'arpèges, mais déjà dans une certaine sonorité. Hein, c'est pas des gammes, mais des trucs beaucoup moins classiques que par exemple ce que Saint-Saëns en a fait. Benjamin Godard, lui, c'est un lied. Donc c'est un chant, en fait, en classique. Donc vous verrez, c'est déjà beaucoup plus une mélodie. Et plus on avance dans le siècle, Octave Perroux, donc lui, c'était un compositeur. Lui, il était que compositeur. C'était quelqu'un qui avait commencé des études d'ingénieur. Et puis un jour, il a entendu encore un organiste dans une église. Et il a eu la révélation. Alors, pas la révélation divine, mais la révélation de la musique. Et il a décidé qu'il serait compositeur. Et du coup, il a fait ses études à Lyon. Il a été. Après, il est monté à Paris parce que c'est. Évidemment, à Paris, tout se passait à l'époque. Maintenant, il se passe même des choses un peu ailleurs. Donc il est monté à Paris, il a rencontré un peu tout le monde, et puis il est mort très jeune, à 36 ans, dans un accident de voiture. Alors, vous verrez, cette étude donc, qui s'appelle Spleen, c'est déjà un chemin vers la sonorité. C'est-à-dire que c'est une étude qui est sur le travail du son du piano, sur un environnement. Vous entendrez, il y a des passages qui pourraient avoir été écrits par des joueurs de jazz aujourd'hui, par exemple, qui sonnent, qu'on pourrait entendre dans ce qu'on appelle le son ECM, c'est-à-dire c'est un distributeur allemand qui a produit notamment Keith Jarrett, qui est plus connu. Donc, ce type de son-là. Et vous verrez que Perroux, ça date du début du siècle, avait déjà ces sonorités là-dedans. Et le quatrième, bon, c'est Debussy qui est le grand compositeur français quand même de cette époque-là, hein, celui qui a cassé un peu tous les schémas, qui a fait ses études musicales très classiques, mais qui dès le départ a dit que de toute façon, lui, la forme classique, la structure classique, ça l'intéressait pas. Et donc il préférait suivre son chemin, que pour lui ce qui était important, c'était ce qu'il entendait, et non pas le fait d'avoir des chemins carrés et précis. Et donc cette étude-là, je l'ai choisie justement parce que c'est un gros travail sur les sonorités du piano.
Thank you.
Lucie, c'est, bon, c'est un univers complètement différent déjà. C'est une musique qui demande aussi à être écoutée, réécoutée. Celle-là, elle est assez intéressante parce qu'il y a aussi de l'inspiration d'un de ses bons amis qui s'appelait Eric Satie. Où en fait il vagabonde, il s'amuse, on sent qu'il s'amuse, c'est-à-dire qu'il est, elle s'appelle Étude pour les arpèges composés, donc un arpège, c'est quand on fait des allers-retours comme ça, donc on sent qu'il s'est pris au jeu, puis à un autre moment il est parti ailleurs, quoi. Il est parti dans sa musique, il fait d'autres choses, il n'a pas fait un truc spécialisé, Là, on pense qu'il a donné des noms, parce qu'il a donné des noms, voilà, celle-là s'appelle Étude pour les arpèges composés, pour empêcher qu'on donne, qu'on l'appelle, je ne sais pas moi, la goutte d'eau, ou les, voilà, qu'on donne des noms qui n'auraient rien à voir, qu'il n'avait pas envie de mettre dans la musique. Quand il a voulu donner des noms, il l'a fait dans les préludes, par exemple, où il y a le, bon, la cathédrale engloutie, la fille aux cheveux de lin, il a donné les noms lui-même. Après, là, je pense qu'il voulait empêcher que ça évoque des choses, ou que, voilà. Mais, alors après, dans les, c'est, il a fait un recueil, bon, les études sont dédiées à Chopin, hein, il a hésité, d'ailleurs, il a hésité parce qu'il s'est dit, de toute façon, celles de Chopin seront tellement mieux que les miennes, que j'ose à peine lui dédier, et puis bon, il l'a quand même fait, il a bien fait. Il l'a fait parce qu'en fait, l'idée des études lui est venue parce qu'il a réédité, il y a eu une réédition par les éditions Durand des études de Chopin, à peu près au moment de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, puisque, pas pour rien, parce que toutes les éditions allemandes, évidemment, ne franchissaient plus la frontière. Donc il fallait sortir des nouvelles éditions, et donc Debussy a travaillé sur les études de Chopin, et du coup s'est mis à écrire des études, voilà, c'est parmi les dernières choses qu'il a écrites. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que, bon, vous avez vu et entendu, c'est quelque chose d'éminemment pianistique, quoi. Enfin, ça se balade, même pour le pianiste, c'est très très agréable à jouer. Lui, il l'a écrit à une période où il ne pouvait plus beaucoup jouer, il était déjà très malade, il n'arrivait plus beaucoup à jouer du piano. En fait, il l'a écrit sur le coin d'une table et sur du papier à musique. Et tout était dans la tête. Ce qui est un travail, on me dirait que Beethoven l'a fait aussi, surtout la fin de sa vie, mais ce n'était pas du tout la même musique. C'est-à-dire que la musique de Debussy repose tellement justement sur le timbre du piano, que pour inventer des nouvelles choses, parce qu'il a vraiment inventé des choses, c'est-à-dire que son recueil d'études a servi de réservoir à idées pour les compositeurs qui ont suivi aussi, tellement c'est riche. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur Satie. Et on va parler d'un... Alors là, je vais enchaîner avec un autre grand ami de Satie. C'est un copain de classe du conservatoire, Gabriel Pierney, qui est pareil, qui est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est quand même relativement connu des musiciens. C'était un des seuls vrais amis de Debussy. Debussy, ça a été quelqu'un qui était très introverti. Hein, Gabriel Pierney, donc, qui a été à Rome avec lui, il a eu son prix de Rome l'année d'avant, Debussy. Donc ils ont eu un moment, Rome c'était 3 ans, donc ils ont eu un moment ensemble à Rome, et ils disaient que Debussy préférait partir tout seul dans les rues de Rome, il s'achetait plein de miniatures japonaises qu'il collectionnait, qu'il raffolait, mais en fait les autres le voyaient qu'à l'heure des repas, quoi, en gros, et voilà, il était vraiment, vraiment dans son monde. Mais Pierney était quelqu'un de très proche de lui. Pierney a été très connu comme chef d'orchestre. C'est lui qui, il a été chef adjoint de Cologne, donc des orchestres Cologne, et puis quand Cologne, j'ai oublié son prénom, la soirée des trous de mémoire, quand Cologne est mort, c'est lui qui a repris l'orchestre Cologne, et il s'en est énormément servi pour faire jouer justement tous les compositeurs qui écrivaient à cette époque-là, donc tout au début du XXe siècle. Mais il était aussi très bon pianiste, il a écrit toute une littérature pour piano assez intéressante, dont cette étude que je vais vous jouer, qui elle est une étude de concert, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, donc c'est encore autre chose, une étude de concert, bah c'est fait pour être joué en concert, ce qui tombe très bien. Voilà. Donc je vais vous jouer l'étude de concert de Pierre. Thank you. Chopin, ses études, il les a écrites à 19 ans déjà, c'est quand même pas trop mal. Il venait de quitter Varsovie, il s'installait à Vienne, et puis il s'ennuyait un peu, alors voilà, il a gratté des bouts de papier et il en est sorti ça. Il a fallu quelques années, en fait c'est à Paris où il a commencé à les jouer pour la première fois. Chopin qui n'était pas que tout le monde n'aimait pas forcément, c'est-à-dire qu'il a... Il a, alors Chopin, on revient beaucoup en arrière hein, quand même. Chopin, on déborde complètement la comique parce que c'est quand même plutôt début du 19e siècle. Hein. Il est mort en 1849, donc on est vraiment dans la première moitié du... Mais bon, c'est tellement important ce qu'il a fait qu'on ne peut pas passer à travers. Oui, c'est ça, à force de faire des discrétions sans arrêt, on finit par perdre le fil. Oui, donc je disais que Chopin a été très apprécié bon, dans les salons, notamment grâce à toutes ces musiques, alors plus légères, mais qui ne le sont pas, hein, parce que les valses, les nocturnes, il s'y passe quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais les gens trouvaient ces harmonies compliquées, les musiciens, jusqu'à ce qu'il l'ait entendu jouer Louis. Parce que ce qu'il a introduit, Chopin aussi, c'est une technique pianistique complètement différente. Et c'est là-dessus aussi qu'il a énormément révolutionné l'histoire du piano. Il y a les grands virtuoses de l'époque, c'était, je ne sais pas comment on dit, Moscheles, qui était vraiment un très grand pianiste, qui disait, mais c'est plein de petits machins et tout. Et puis un jour, Chopin est venu le voir, il a joué, et il est sorti, il a dit, ah bah ouais, je comprends tout, quoi. Mendelssohn, c'est pareil, Mendelssohn, juste en lisant les partitions et en les jouant Louis, Mendelssohn, qui est quand même quelqu'un de très très ouvert, parce que c'est lui qui a fait, bon, il a fait redécouvrir Bach, mais il a fait jouer vraiment aussi tous les auteurs de son époque, Schumann, enfin il a vraiment aidé beaucoup beaucoup de gens. Il était, il avait la chance d'être né riche, mais il s'est servi de son argent de manière intelligente. C'était un grand compositeur aussi, hein. Mendelssohn. Et pareil, en voyant le travail de Chopin, notamment les études au début, il disait, mais c'est quoi ces machins, ça n'a pas de sens, jusqu'à ce qu'il entende Chopin les jouer et qu'il comprenne en effet qu'il y avait une manière de poser ses mains sur le piano qui était différente. Et la musique pour piano a énormément évolué à partir de là. On a souvent fait les parallèles entre Chopin et Liszt, d'ailleurs, qui étaient deux grands virtuoses. Liszt a eu un parcours très différent de Chopin, parce que Chopin a été il était très pianiste, mais il était avant tout, malgré tout, quand même compositeur pour le piano. C'était quelqu'un qui n'aimait pas faire des concerts, qui aimait beaucoup jouer voilà, dans des petits comités comme ça lui allait très bien, mais faire des grands concerts dans des grandes salles, il a dû en faire 10 dans sa vie, quoi. C'était quelque chose, voilà. Liszt, c'est exactement le contraire. Liszt, c'était plutôt le genre à avoir deux pianos à queue sur scène pour qu'on puisse voir son profil là. Mais de toute façon, on voit bien le profil aussi. Ah, c'était un autre. C'était un très grand pianiste, c'était un très grand compositeur. Hein. Il a vécu très longtemps et il a été très très loin. C'est-à-dire, ça a été un des précurseurs de Schoenberg, par exemple, avec des musiques sérielles et tout ça. Enfin, il a vraiment creusé très très loin, mais bon, c'est un autre sujet. Et Liszt, d'ailleurs, qui lui-même a dû s'enfermer pendant 3 semaines avant de pouvoir jouer les études de Chopin. Ce qui pour lui était, lui c'était plutôt le genre à prendre une partition et puis 2 heures après il sortait, ça y est, il la jouait quoi.
Moi, je serais très content de les jouer en 3 semaines. Hein, mais, mais pour lui, c'était un travail fabuleux. Et d'ailleurs, on va passer à l'étude. Donc là, j'ai choisi 3 études d'esprit un petit peu différentes. Mieux si vous les faire écouter, en fait.
Voilà.
Thank you.
copains, c'est tout un monde. En effet, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. C'est vraiment un autre univers. Alors après les études, là je me suis vraiment restreint à la France parce qu'il y a d'autres compositeurs, il y a Liszt déjà qui a écrit un certain nombre d'études, qui auraient aussi pu trouver leur place un peu ici. Liszt c'était quelqu'un d'un peu déjà européen avant l'heure, hein, parce qu'il était, il n'était pas français, mais il a vécu très longtemps à Paris, mais il a vécu un peu partout en Europe. De toute façon, il était tout le temps en tournée, et puis aussi bien que. Il pouvait être aussi bien autrichien qu'italien, qu'allemand, que français. Enfin, je pense que ça a été vraiment le premier grand européen. Dans les Russes aussi ont écrit beaucoup d'études. Rachmaninov a aussi fait ses études tableaux et a aussi écrit des choses qui ont aussi pas mal changé. Mais bon, ça sera une autre histoire. Sur le programme, vous voyez, donc du coup, il n'y a plus de surprise, qu'il y a encore quelque chose derrière où il n'y a pas marqué études devant. Et en fait, je me suis dit, voilà, pour clore un peu ce cycle sur la musique française, j'avais envie de... Parce que moi aussi, j'ai découvert pas mal de choses, en fait, en travaillant ça, en recherchant un peu des auteurs, pas forcément, en prenant justement pas forcément les plus connus tout le temps, mais des choses, des gens qui avaient quand même des choses à dire. Et je me suis dit, quel est le morceau que je ne connaissais pas, qui m'a le plus interpellé. Alors, j'aurais eu des musiciens sous la main, je pense que j'aurais choisi le quartet de Franck. Je ne sais pas ce qui était là la dernière fois. On a joué avec le quatuor à cordes et piano. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des œuvres que j'avais jamais entendues et qui m'a vraiment énormément touché. Voilà, je sais que j'aurais envie de la rejouer. Et là, j'avais joué un mouvement parce que le propos, justement, c'était de vous montrer un peu des choses différentes. Pour ça, parce que vous voyez, il y a une liste assez impressionnante quand même sur le nombre des concerts. Ils ne sont pas tous en entier, évidemment. Le premier concert, on n'a pas, j'ai pas joué la symphonie numéro 6 en entier, hein, sinon on n'était pas sorti. Mais voilà, c'est donner un peu des univers différents. Et voilà, et au bout du compte, donc du coup, dans les œuvres pour piano tout seul, je suis revenu sur Gabriel Dupont. Gabriel Dupont, pareil, un compositeur pas très connu, qui a écrit quelques opéras, qui a écrit de la musique pour piano, qui, pareil, qui était très ami avec Debussy, qui était très ami avec tout le monde, qui était quelqu'un d'assez malade, donc qui n'a pas pu sortir comme il aurait pu. C'est-à-dire que Chopin a eu cette chance, et il a été très malade sur la fin de sa vie, mais il a eu cette chance au début de sa vie de pouvoir aller dans les cercles, où il a été très vite introduit dans les cercles de l'aristocratie et de la bourgeoisie, ce qui lui a permis, en tout cas Chopin, de gagner déjà sa vie en donnant des cours, puisqu'il ne voulait pas gagner sa vie en donnant des concerts, ça ne l'intéressait pas. Mais du coup, il a eu plein de riches élèves qui le payaient assez grassement. Il suffit de voir la liste de ses déménagements. Au fur et à mesure, il se rapproche du centre de Paris et il y a des appartements de plus en plus grands. Voilà. Donc c'est très bien, tant mieux pour lui. Ça lui a permis d'écrire toute sa musique, d'avoir du temps pour écrire sa musique. Gabriel Dupont, lui, n'a pas eu cette chance-là. Il a été malade, il était tuberculeux très très jeune. Du coup, il avait des périodes de rémission, des périodes où ça allait mieux. Il a écrit quelque chose, des choses assez magnifiques. Il a écrit un poème, comment il appelle ça, poème élégique, je crois, pour quatuor à cordes et piano, qui est très très beau aussi. Voilà, moi, là, ce que je vais vous jouer, c'est, déjà, j'aime beaucoup le titre, La mélancolie du bonheur. Je trouve que c'est tout un programme, après on en pense ce qu'on veut. Hein, c'est... Il y a un petit sous-titre d'ailleurs qu'il a mis Dimanche de Pâques au large. Enfin, il a écrit ça en fait quand il était à Arcachon, parce qu'il allait souvent à Arcachon pour respirer le bonheur. Le bonheur. Ouais, il a donc écrit des cycles, il a écrit deux cycles pour piano. La mélancolie du bonheur, ça fait partie d'un cycle qui s'appelle La maison dans les dunes. Et voilà, il y a une, je ne sais plus son, mais il y en a 8 ou 9, je crois. Et voilà, dont cette mélancolie du bonheur.
chanteur français. À partir du mois de juin, on redémarre un nouveau cycle en rapport avec l'exposition du musée. Là, c'est pas super représentatif, mais l'exposition, c'est sur les lieux de tournage à Montmartre. Donc, il y a des extraits de films, on peut entendre des choses, voir des choses. Voilà, je vous conseille de la voir, elle est vraiment très très bien. Et du coup, le cycle, ça va être sur les musiques essentiellement classiques, mais aussi un peu les autres utilisées au cinéma. Pour la première, en fait, je suis parti autour principalement de deux films, Barry Lyndon, le Kubrick, et le pianiste. Alors, pas la pianiste, mais le pianiste de Polanski. Voilà, donc vous aurez l'occasion d'entendre un mouvement du trio de Schubert, notamment. Donc, on sera avec un violon et un violoncelle. Il y a la première balade de Chopin aussi. Il y a un peu la sarabande de Handel, évidemment, dans Barry Lyndon. Enfin, voilà, il y a plein d'univers classiques. Et donc, sur ce cycle-là, devrait durer à peu près le temps d'exposition, donc jusque Noël, ou voire début de l'année prochaine, il y aura 4 ou 5 concerts. Il y aura un petit peu de musique irlandaise aussi, certainement, au prochain concert de Barry Lyndon. Toujours le troisième vendredi du mois. Donc là, le prochain, c'est vendredi 16 juin. Et il se passera d'ailleurs aussi des choses ici le jour de la fête de la musique. J'organise un festival de chorale. Donc il y a des chorales qui vont chanter là. Il y en aura juste au-dessus, juste en montant la rue et juste en descendant la rue. Il y aura 3 coins avec pas mal de chorales parce que c'est un coin un peu privilégié où on n'a pas de répercussions des autres concerts extérieurs. Donc on peut faire, et ici il y aura des chorales, mais il y aura aussi un peu de piano, il y aura peut-être un petit orchestre d'élèves du conservatoire, deux petits orchestres d'élèves qui font de ce qu'on appelle du sound painting, si vous avez entendu parler. Sound painting, c'est une base d'improvisation à partir de gestes. Il y a un chef d'orchestre qui il y a toute une gestuelle qui est très 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 étudiée, hein, très, très cadrée, et qui donne des indications aux musiciens. Voilà. Et maintenant, ça se fait aussi au conservatoire. Et donc, il y a le prof qui dirige, mais il apprend aussi aux élèves à diriger les auteurs. C'est vraiment un travail intéressant. Donc voilà, le jour de la fête de la musique, si vous pouvez venir vous balader dans le quartier, c'est calme et il y aura de la musique. Et en tout cas, le vendredi 16 juin, donc, pour les musiques de film. Et puis, à très bientôt, j'espère.